Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.
La bande à T-Rex est un ballet cycliste et musical virevoltant qui réunit 9 personnes. Ça roule, ça s'entasse, ça s'empile, ça accélère, ça dérape. Un fourmillement de roues, une effervescence. Une création collective singulière qui s'empare du vélo acrobatique et le déploie à son image. Joyeuse couille roulante et délurée et musicale, la bande à T-Rex roule d'un vélo à l'autre et décline une infinité de formes, d'équilibres et de déséquilibres. Bienvenue, la bande à T-Rex, et merci d'être là pour le podcast du Cirque de Riga, à l'occasion de sa grande réouverture, qui est lancée pour une saison française, dont vous êtes les inaugurateurs. Ma première question, c'est comment vous sentez-vous après votre première représentation hier soir dans un cirque complet ?
Waouh ! Alors tout d'abord, merci au Cirque de Riga de nous avoir accueillis. On a passé une soirée d'ouverture absolument magnifique, où tout le monde avait une envie énorme de voir du spectacle vivant, autant nous de notre côté de le pratiquer et que d'échanger avec le public. C'était juste énorme, huge, gorgeous, comme on dit dans la langue de Shakespeare.
Et oui, et ben pareil, bonjour déjà, merci pour l'invitation. Et oui, on a passé une très très belle soirée et on était surtout honorés de pouvoir inaugurer ce lieu et de jouer pour la première fois dans ce lieu et de l'investir à notre manière, à la bande à T-Rex. Et c'était une très belle soirée et aujourd'hui on se sent bien, content d'y retourner aussi ce soir parce qu'on rejoue ce soir et demain deux fois. Donc on est très content d'être là et c'est un plaisir pour nous.
Je pense que le public était plus que content, ravi de vous avoir hier soir. J'évoquais 9 personnes, mais je sais que le collectif est un peu plus grand. Mais j'ai 2 personnes avec moi ici dans le studio. Qui êtes-vous ?
Alors moi c'est Jonathan, je suis voltigeur sur les vélos. Et que dire sur moi ? Je fais partie de la bande à T-Rex depuis le début et je suis... Je fais de la basse en l'occurrence aussi avec eux. On n'est pas tous musiciens d'origine, mais on s'est tous mis à la musique à notre niveau, à notre endroit. Et voilà, et je suis très, très content de faire partie de cette belle équipe.
Et moi, je suis Benny Martin, acrobate cycliste et sur BMX et sur vélo artistique et également musicien en tant qu'accordéoniste au sein de cette joyeuse troupe de fanfarons roulants, virevoltants et musicants.
Merci beaucoup. J'ai fait mes petites recherches sur vous et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Vous connaissiez avant la création de la bande à T-Rex, puis il y a eu une conférence sur le vélo acrobatique en Ardèche. Mais comment c'est né la bande à T-Rex ? Comment, qu'est-ce qui, où, quoi, comment, pourquoi ?
C'est un peu ça. C'est en fait ça, tout part de rencontres de vélo acrobatique, une sorte de convention, rassemblement autour du vélo. Plusieurs personnes y sont, dont les membres de la bande à T-Rex. Et puis, c'est une histoire d'affinité, c'est une histoire de rencontre humaine, d'envie de se retrouver. Au début, juste pour se retrouver en plus petit groupe. Au début, juste pour rouler encore ensemble. Au début, juste pour éprouver, de se dire, tiens, on peut chercher des nouvelles choses autour du vélo. La plupart des gens avaient une pratique du vélo de manière individuelle. Et donc, du coup, c'était aussi l'envie de faire cette discipline à plusieurs. Voilà. L'envie de la musique est arrivée assez vite aussi. Et au début, donc, des rencontres. Et petit à petit, une sorte d'évidence, c'est de se dire, si on ferait pas un spectacle ensemble. Donc voilà, c'est parti petit, c'est parti à vraiment un endroit particulier, singulier, de se dire, on veut juste prendre du plaisir et peut-être le partager. Et puis on verra. On est à Riga et on fait 4 représentations pleines, donc on est très... Ouais, on est heureux, ouais.
J'imagine, mais d'ailleurs moi j'ai une question vraiment en fait très, très pragmatique, très naïve, parce que je ne connais pas la vie d'un artiste de cirque. Vous connaissiez auparavant, puis ensuite vous réunissez pour faire la bande à T-Rex, mais je sais aussi que vous êtes tous affiliés à d'autres compagnies. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que depuis 2021, est-ce que vous travaillez quand même de manière simultanée avec ces autres compagnies, ou alors depuis 2021 c'est uniquement la bande à T-Rex qui est dans vos vies professionnelles ?
Alors c'est vrai qu'à la base, le projet de la bande à T-Rex n'était pas spécialement prioritaire par rapport à nos projets personnels. On s'était dit, oh, allez, on se donne un maximum de 15 représentations par an parce qu'on veut quand même privilégier nos projets personnels dans les autres compagnies. Petit à petit, le succès grandissant de la bande à T-Rex, on a changé notre fusil d'épaule et c'est maintenant c'est notre principal projet dans notre agenda et dans notre réalité de vie d'artiste. Donc les choses se sont inversées, mais très naturellement. Et on a su s'adapter aussi avec les gens avec qui on travaillait à côté pour qu'on puisse poursuivre ce magnifique projet de ballet cycliste.
Mais c'est vrai que c'est une des particularités de notre groupe aussi, c'est de vouloir composer aussi avec les vies de chacun, les compagnies de chacun, les projets de chacun. Et effectivement, depuis un petit moment, là, ça devient plus un projet qui prend de plus en plus de place pour nous. Mais c'est vrai que la bande à T-Rex, c'est ça aussi, c'est comment... voilà, c'est un spectacle, mais c'est aussi une aventure humaine, c'est un groupe, et c'est comment on compose ensemble, voilà.
C'est vrai qu'à la base, on s'est rencontrés en 2014 et tout de suite, on a eu des atomes crochus. Ça, c'est un cadeau du ciel. On s'est entendus comme une bande de copains qui se connaissaient depuis toujours, quasiment. Mmh. Et on a toujours traversé ces années, ces semaines, ces mois de création avec cet esprit-là de bienveillance entre nous, de compréhension de l'un et l'autre. Et ce qui fait qu'on a un parcours qui est fluide. Et quelles que soient les étapes qu'on traverse, on se fait confiance mutuellement et ça, c'est absolument magnifique. Et nous, ce qui nous rassemble, cette envie et ce besoin, cette nécessité d'être ensemble, juste d'être ensemble. Et après, ce qu'il en découle, il en découle des spectacles, des rencontres, des épopées, plein de projets. Mais nous, c'est la bande de copains qui est le noyau de tout ça. Et ça, on ne le choisit pas. Voilà, ça nous a été donné.
Bienveillance, ensemble, aventure humaine, moi, c'est totalement des mots, des critères que j'ai vus et que j'ai même ressentis en vous découvrant hier soir, mais aussi à travers les films de Pierre Barbier, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Juste avant, je voudrais m'arrêter sur le nom, du coup, La Bande à T-Rex. Et sur votre site, on trouve un magnifique clip musical intitulé « Vélociraptor, pourquoi les dinosaures ?»
Alors, pourquoi le dinosaure ?
C'est une bonne question.
Alors, c'est pour rejoindre l'esprit bande. Quand on cherchait le titre du spectacle, on voulait pas un nom comme collectif bidule et on se trouvait la bande, on était une bande et il manquait la bande à qui. Et un matin, c'est Benjamin Renard qui dit, j'ai trouvé quelque chose, ça va pas vous plaire, je pensais à la bande à T-Rex. Puis on a dit, mais c'est génial, il y a aucun rapport et c'est absolument génial. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était le nom du collectif, la bande à T-Rex, et le nom du spectacle, on l'avait visualisé comme Vélociraptor, ce qui figure sur le clip. Et puis au bout du compte, on s'est dit, bah non, en fait, le nom du spectacle, c'est aussi la bande à T-Rex. Donc du coup, maintenant, on ne communique plus qu'avec la bande à T-Rex sur nos outils de com. Mais Vélociraptor faisait partie du projet en tant que vélo, parce qu'il y a le vélo, quoi, voilà. Et puis et c'était en raccord avec la bande à T-Rex. Bon, après, on s'est dit, c'est too much, on va juste garder la bande à T-Rex, point.
Le clip que j'évoquais d'ailleurs, réalisé par Pierre Barbier et Camille Châtelain, il est drôle, c'est déjanté, c'est loufoque. Ça soigne une liberté artistique et créative folle. On a l'impression, en tout cas dans le clip et même sur scène, même si je mène qu'il y a évidemment beaucoup de travail, beaucoup de discipline, que vous vous permettez tout ce que vous pensez, vous osez tout ce que vous voulez faire. Et du coup, ma question, c'est sur votre processus créatif en tant que groupe. Est-ce que les idées fusent et vous dites, allez, on tente, on essaye, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ou il y a quand même place à beaucoup de débats et des réunions sur que faire.
Vous avez tout dit dans la question. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est l'endroit aussi de la bande à T-Rex qui est particulier, qui nous représente bien. C'est-à-dire qu'on est un groupe avec des personnes très différentes et des envies et on se projette différemment chacun et on a un passé aussi différent. On a des... Voilà. Mais en gros, il y a la place. Il y a l'espace pour chacun s'exprime et à sa façon. Mais ça veut pas dire que derrière, c'est pas compliqué, c'est pas beaucoup de débats. Mais au final, bon, voilà, on sait pas trop pourquoi. Ce que tu disais, Benny, tout à l'heure, c'est vrai, ça nous tombe un peu dessus. Au final, bah, il y a un truc qui se passe, quoi. On y arrive, et puis on propose ça, et puis on voit qu'il y a un truc qui se passe. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de débats, c'est beaucoup de temps où il faut s'écouter, d'accepter, voilà. Et puis la création, je sais pas, il y a un côté très empirique. On se retrouve, on brasse des, je sais pas, du vélo, des idées, et puis les univers chacun des fois s'entrechoquent. Se répondent, mais on a voulu donner la place vraiment à tout le monde et de pas, il y avait pas une ligne directrice artistique ou comme une volonté de faire ou de un projet, voilà, un projet artistique très précis à la base, mais il s'est composé en fait au fur et à mesure de la création et c'est ça qui peut-être nous a dépassé, mais à un moment donné qui fait qu'on en est là et on en est super fiers, quoi, de ce truc là où on est chacun nous, quoi.
Oui, et pour compléter dans le processus créatif, c'est vrai qu'au tout début, où on a eu cette envie de se retrouver pour juste être ensemble et rouler ensemble. On a fait des étapes de travail qu'on appelait des labos de recherche où on n'avait pas d'objectif. On s'était dit juste, on déconne ensemble, on roule sur des vélos. Et c'est là qu'on a appris à se connaître aussi d'une manière circassienne, c'est-à-dire qui pouvait faire quoi, sur quel vélo, avec quelle personne, pour avoir de la matière technique et aussi artistique au bout du compte. Donc, lorsque tu disais, Steve, comment est-ce que vous faites, ben, on a déjà appris à se connaître comme ça, et quand on a une idée sur un site, on se dit, ah oui, on peut l'essayer, ça sera toi, toi et toi, on sait que ça marche. On peut être très réactif et inventif parce qu'on a aussi un passé de recherche, on a de la matière en réserve de propositions artistiques.
D'accord. Alors justement, je m'intéresse beaucoup au labo que vous venez d'évoquer parce que, concernant le clip, je reviens un instant sur le clip, avec encore une fois que je conseille à tout le monde de visionner, je l'ai aussi vu vraiment comme presque une déclaration d'amour à la musique et à ses différents genres. On voit vraiment des gens qui aiment la musique. Et je sais aussi que pour créer la bande à T-Rex et son spectacle, certains jouaient déjà de la musique, sont des musiciens confirmés. D'autres ont vraiment appris sur le tas. Et vous créez ce ballet cyclique. Alors j'entends bien qu'il y a cette idée de labo de création. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un ou un nombre de personnes qui chapeautent et qui vraiment vont se concentrer sur la musique tout en intégrant quand même les techniques cycliques? Comment exactement ça s'emboîte tout ça? Ou alors c'est vraiment complètement organique et comme vous le disiez, voilà, vous êtes à neuf et il y a de la place pour chacun et au final tout s'emboîte très naturellement?
Alors on a dû s'auto-organiser pour toutes les fonctions nécessaires au développement du spectacle, y compris sur l'aspect création. Et il y a une commission de 3-4 personnes de la bande à T-Rex qui bossent la musique pour faire des propositions. Et après, on bosse tous ensemble sur ces propositions. Et on est organisé comme ça sur tous les aspects, que ce soit la communication, les aspects techniques du spectacle. On a des petits groupes, des petites commissions qui font des propositions histoire d'avancer plus vite. Parce que si on est tout le temps, tous les neuf, à réfléchir tous ensemble, ça prend un temps énorme de débat, de réflexion, d'échange. Donc ce principe un peu, ça reste très horizontal, mais des petites commissions proposent pour la musique des morceaux, des arrangements, etc.
La musique, justement, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous hier soir après le spectacle, notamment avec toi, Benny. Et en discutant, on s'est rendu compte au final qu'il y a plus d'instruments sur scène que d'artistes. Est-ce que de tête, vous sauriez énumérer les instruments que vous jouez?
Déjà hier, j'avais du mal à
déjà
compter.
Déjà hier, oui.
Alors,
question piège, le retour.
Question
voilà.
Piège, on est neuf, donc il y a déjà au moins neuf instruments. Et puis, je dirais qu'il y a 12 instruments, mais je ne suis pas hyper sûr. Faudrait, en comptant les voix.
En comptant les voix, d'accord. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous jouez exactement?
Alors moi, accordéon.
Et moi, je fais de la basse et je tape un peu sur le petit chambourin.
Ok. Et vous jouez des instruments en dehors de la bande à T-Rex que vous n'avez pas intégré au spectacle?
Moi, non.
Un tout petit peu du ukulélé, mais essentiellement de l'accordéon.
Les autres stars de la performance, ce sont aussi les vélos. J'ai essayé d'observer autant que faire se peut les vélos. À part la couleur, ce sont tous les mêmes?
C'est le même principe de vélo. C'est des vélos acrobatiques, oui, qui ont des particularités. Mais il y a des subtilités, il y a des marques, il y a des hauteurs différentes, il y a des guidons, des tailles de selles, des hauteurs de roues un peu différentes, mais c'est le même principe. Ouais, on a tout, on tenait à ça. Alors non, il y a une petite différence quand même. Benny, c'est toi qui est le mieux placé pour en parler, mais il y a un vélo qui est différent. Il y a un BMX dans le spectacle, voilà. Mm-hmm. Mais sinon, on tenait à ça, d'avoir une unité au niveau des vélos. On s'est posé la question parce que dans la bande, il y a aussi des monocyclistes. Moi, je suis monocycliste aussi à la base. Robin Zobel aussi, et il l'est aussi. Et on s'était posé la question de, voilà, monocycle, peut-être d'autres types de vélos aussi. Puis en fait, il y avait un truc qui nous plaisait aussi de cette unité, tous les vélos. En fait, le début, quand même, pour revenir à la question sur l'artistique, il y avait quand même une ligne directrice qui était hyper importante. C'était l'envie d'être ensemble, mais c'était aussi faire du vélo ensemble et faire de la musique. Et ça, c'était en fait dès le début, en fait. C'est ça qui nous a conduit tout au long de la création, quoi. Mais oui, donc, ouais, les mêmes vélos.
Oui, même vélo artistique, à la base, c'est une discipline allemande. Les Allemands sont très, très forts là-dessus. Les vélos sont... La géométrie du cadre est étudiée. Il n'y a pas de frein. Ce sont des fixies, donc pignon fixe. Quand on pédale en avant, on va en avant. Quand on pédale en arrière, on va en arrière. Contrairement au vélo à roue libre que tout le monde a chez lui. Et puis, après, c'est juste les différences de taille du vélo qui changent dans nos spectacles. Hormis le petit vélo à part, qui est le BMX, qui est ma discipline de base. Celui-ci a des freins, est équipé pour faire d'autres figures que le vélo artistique.
Le BMX parce que champion de France 1985.
1985, c'est ça.
Félicitations.
C'est sûr, on doit le dire encore. Tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai fait partie des premiers pratiquants du BMX qui arrivaient en France en 1980. Et très vite, je me suis tourné vers la compétition sur rampe en skatepark, en parc. J'ai été titré en 1985. J'ai remporté la Coupe de France. Et j'ai arrêté la compétition en 91 et pour après une grosse chute, comme on arrête souvent après des grosses chutes. Et j'ai repris après des figures au sol qu'on retrouve dans le spectacle, notamment de la bande à T-Rex.
Sur les vélos toujours d'ailleurs, quel poids peut supporter un vélo? Parce qu'on voit durant le spectacle, vous grimpez les uns sur les autres, ça va très haut et c'est en mouvement. C'est quoi la limite? C'est quoi la capacité maximale d'un vélo?
C'est quand il casse.
La pression des pneus aussi.
La pression des pneus, c'est vrai qu'on s'empile à 4 ou 5 sur un vélo, donc ça fait vite 300 ou 400 kilos. Normalement, ils ne sont pas prévus pour ce poids-là. On voit les portées en Allemagne, ils sont à 2 sur un vélo maximum, ils font d'autres figures. Là, pour le moment, on n'a pas cassé de vélo, donc on suppose qu'ils sont assez costauds pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu d'études de charge pour monter à 4 ou 5 sur ces vélos-là. Après, en cirque plus traditionnel, il y a des vélos vraiment conçus pour faire des pyramides humaines sur des vélos. C'est vraiment très renforcé. On peut monter à 10, 12 dessus. C'est des mini-motos à pédales, quoi, en fait.
Mais là, on l'a beau, on avait fait un petit délire. Là, on avait essayé de monter à le plus possible sur un vélo. Et on était monté à
7,
combien?
À 7, au moins de mémoire.
À 7, hein, ouais. Donc voilà,
voilà. Déjà, en roulant.
Voilà, en roulant. Ouais. Donc il supporte 7.
Ok, merci beaucoup. Ça me donne une idée assez précise jusqu'où vous pouvez aller. Dans le dossier de présentation de la Bande à T-Rex, on peut lire ceci. Un projet pensé avec la soif de créer pour une pluralité de publics et d'espaces, avec l'envie de s'implanter simplement sur les places, dans les parcs, friches, gymnases, salles des fêtes, et de partager, autour d'une piste circulaire, un instant privilégié et suspendu. Ce que j'ai retenu là-dedans, plusieurs choses, je vais y revenir. Mais vous écrivez s'implanter simplement. Toutefois, vous avez quand même des besoins techniques lorsque vous créez vos spectacles dans différents endroits. Comment a été pensé l'espace lorsque vous étiez en train de concevoir le spectacle? Comment vous avez abordé l'espace lorsque vous venez à Riga? Parce que si je peux me permettre, ce ne sera pas un gros spoiler, mais moi je trouve ça exceptionnel votre arrivée déjà par le balcon, par le haut, qui tout de suite d'emblée marque le public. Et ça fonctionne très très bien. Y a-t-il eu des défis, spécialement à Riga, mais dans différentes structures où vous êtes installé? Comment est pensé l'espace?
Il est pensé, je sais pas, il y a un mot qui vient en premier, c'est il est pensé circulaire déjà. Dès le début, il y avait une volonté de jouer en circulaire, voilà. Et puis il est pensé pour... voilà, hier on a joué à Riga dans une très 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 belle salle. Mais dès le début avec la bande à T-Rex, c'est une envie de pouvoir jouer à l'extérieur, de pouvoir, comme vous l'avez dit, sur un parking, de pouvoir s'implanter dans des endroits, voilà. Et donc du coup, de s'adapter. Donc hier, effectivement, on a fait une entrée particulière, mais c'est ce qu'on fait à chaque fois, on essaye de voir le lieu, de voir ce qui est possible, comment on s'adapte, comment sur le moment on s'organise pour créer une nouvelle entrée, pour pouvoir être plus en lien avec le public, pour voilà. C'est vrai que des fois, on est un peu dépassé par nos contraintes parce qu'on a envie aussi d'assumer, de pouvoir jouer avec une certaine qualité, avec aussi des fois du public qui est nombreux. Donc du coup, ça veut dire pas mal de matériel au niveau du son. Mais on a envie d'être le plus accessible possible, quoi. Et donc d'avoir aussi un rapport avec le public. Donc on essaye de mettre les gens pas trop loin pour qu'ils sentent les vélos passer, pour qu'on puisse aussi être en interaction avec eux, jouer avec eux, qu'on sente les regards. En fait, on aime bien ça. On prend beaucoup de plaisir à jouer en intérieur parce qu'aussi, il y a tout un travail de lumière qui est très intéressant, qui peut mettre en valeur certains visuels, certains espaces et tout ça. Mais ce côté aussi d'être dehors, en rue, avoir un rapport direct avec les gens, c'est un endroit qui est très important pour nous.
Oui, complètement. C'était vraiment l'aspect cirque, en fait, circulaire, et qui permet aussi d'avoir... moins de rangées de public, puisque le public est mieux réparti sur le périmètre du cercle. Donc, les gens sont plus proches de nous et nous, on a besoin de ce contact en tant qu'artiste spectacle vivant, de croiser les regards de près, vraiment pour échanger avec ça. Et c'est vrai que le projet initial, comme il est marqué dans le dossier, c'était on voulait vraiment aller jouer dans les petits villages où il ne se passe pas forcément grand-chose et arriver là et créer un événement et repartir et avoir dans l'idée de se dire le lendemain, les gens ils vont se dire « Ah, oh, c'est marrant, c'est quelque chose a changé ». Voilà, c'était juste, on avait envie de faire ça. Après, c'est vrai qu'il y a des contraintes budgétaires, etc. Mais c'est aussi toujours dans notre volonté d'aller jouer pour des petits lieux. ce qui n'a rien de péjoratif, mais où les accueils sont toujours très, très, très chaleureux et on est enchanté de faire ça.
De l'espace au public, justement, vous m'offrez une très belle transition, je vous en remercie, parce que ça se ressent dans votre spectacle, vous jouez beaucoup avec le public et le public en est ravi. De nouveau, dans la conception, donc j'imagine que ça fait partie de votre ADN, vous avez envie d'aller titiller, d'aller amuser le public de manière très proche. C'est quelque chose que vous tentez dans les labos. Je ne sais pas si les laboratoires que vous faites sont en public ou pas du tout. Ou alors, est-ce qu'à chaque fois que vous faites une représentation, vous tentez des nouvelles choses et vous sélectionnez ce qui marche ?
Bah, y a la période de création. Là, on n'est plus là-dedans par rapport à la bande T-Rex. Alors, on prend du temps, des fois, pour retravailler le spectacle. Des fois, il y a des envies, il y a des choses qui évoluent. Et puis, en fait, on est en perpétuel re-questionnement sur encore des moments du spectacle, sur voilà, toujours l'améliorer ou se sentir mieux ou donner la place à d'autres envies. On a fait des présentations de travail après des périodes de création. Donc là, on est confronté au public et effectivement, on essaye de voir où on en est, de voir comment ça réagit, tout ça. Mais c'est vrai que y avait l'envie de ne pas avoir ce comme en théâtre, on parle du quatrième mur. Bah nous, mon T-Rex, on voulait pas être à cet endroit-là, quoi. On voulait le casser et dans le concept, mais dans la réalité aussi. C'est-à-dire que des fois, nous, on se permet même avec les vélos de déborder un peu. Si, c'est voulu tout le temps. mais voilà. Donc on est à cet endroit-là, ouais.
Juste pour compléter, c'est vrai que, mais y compris dans les phases de labo de recherche, on a quand même cherché et trouvé quelques figures de notre cru qui permettent au public d'avoir certaines sensations quand ils voient un voltigeur arriver au-dessus de leur tête, dans leur direction, par exemple. Ça faisait partie des résultats de nos labos de recherche et qu'on avait envie de mettre en spectacle live. Mais tous les risques sont calculés, voilà, bien sûr. Donc on ne peut pas trop improviser là-dessus. En fait, ça fait partie de notre matière qu'on a trouvée en amont. Et sur ces figures-là, c'est calé au millimètre et, pour que l'aspect impressionnant et surprenant soit complètement là, quoi.
Et oui, pour compléter sur la part d'improvisation, en fait, ce que dit un peu Benny, mais le spectacle est très écrit, mais à l'intérieur de ça, voilà, c'est du spectacle vivant et on a cette liberté, on a quand même ces espaces pour pouvoir réagir, pour pouvoir à chaque soir être différent, quoi. Mais par contre, on laisse paraître une facilité, une sorte de voilà. Peut-être des fois on pourrait penser qu'on est en impro, mais en fait tout est écrit et on a besoin de nos repères. Mais voilà, c'est l'endroit aussi. C'est ça qui est cool aussi dans ce spectacle. C'est de pouvoir faire passer cette légèreté, cette fluidité-là, sans qu'on se l'impose, quoi. On le vit pour de vrai, quoi.
Si je peux me permettre, non pas pour faire de l'éloge flatteuse et facile, mais c'est souvent la marque des grands, que ce soit les grands artistes ou les grands sportifs, et vous êtes au croisement des deux, c'est que ça donne l'impression d'être facile. Ça donne vraiment l'impression d'être facile, et c'est la beauté du spectacle. Et vous disiez, John, que du coup, c'est un spectacle très écrit. Est-ce que j'ai vu ? J'en doute absolument pas. Et c'est aussi un spectacle avant tout que je trouve très drôle. Et qu'est-ce qu'on se marre ? On se marre énormément. Et je partageais avec Benny hier que ce qui m'a halluciné, c'est que je m'intéresse un peu à l'acting, j'ai étudié le cinéma, enfin un tout petit peu de théâtre. Les 9 artistes que vous êtes, vous avez tous un talent comique, mais très prononcé. Et moi, ça m'a vraiment surpris. Vous êtes tous les 9 très drôles. Et du coup, je me suis demandé si la bande T-Rex en tant que collectif avait des références comiques. Et vous deux, personnellement, est-ce que vous avez des références comiques que vous essayez ou non d'intégrer dans le spectacle ?
Référence comique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, est-ce que vous avez des numéros, que ce soit de cirque ou de musical, de théâtre ou de comédien de stand-up, de comique, d'humoriste, vous aimez, vous appréciez leur humour et que parfois vous aurez peut-être envie d'intégrer ou auquel vous avez pensé intégrer dans le spectacle ?
Moi, j'adore le clown. Moi, j'ai 2 références qui me tiennent très à cœur dans ma vie d'artiste et de clown. C'est Grock et un clown catalan qui s'appelle Léandre. Donc ces deux, alors Grock, je l'ai connu qu'à travers son œuvre et un de ses films et certains de ses sketchs, de ses numéros. Et Léandre, je l'ai vu plusieurs fois en spectacle vivant et c'est à mes débuts et ils m'ont vraiment scotché et c'est un univers qui me porte et qui est très inspirant pour moi. Voilà pour les références personnelles. Après, j'ai pas eu spécialement envie de mettre leur esprit dans le spectacle avant la T-Rex, mais dans les références comiques, beaucoup. Pour certaines des aspects comiques du spectacle, on s'est inspiré aussi de notre passé professionnel, des projets qu'on a eus dans le passé. On s'est dit, ah, il y a ça qui marche, on pourrait essayer de réinjecter là. Et puis là, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas dire à quoi je pense. Enfin, voilà, en tout cas, pour mes références personnelles.
D'accord, si je peux me permettre, c'est vraiment le néophyte que je suis. Léandre et Grock, quel type de clown sont-ce ?
Alors Grock était un Suisse allemand il est devenu multimillionnaire tellement il a tourné dans toute sa vie avec il était polyinstrumentiste, il essayait plein d'acrobaties, enfin il a tourné dans le monde entier. Vraiment, je crois de mémoire, il est mort en 72 ou 1972 ou 76, je sais plus. Et Léandre est toujours d'actualité et vit en Espagne et se produit beaucoup en France aussi. Un clown de rue, il fait aussi des spectacles en salle. Moi, je l'ai vu que en rue et avec rien, il tient 1000 personnes pendant une heure avec rien.
Moi, je partage ce que dit Benny. Oui, oui. On a tous plein de références aussi qui sont pas forcément aussi dans le milieu du cirque maintenant avec tout. Voilà. Et puis, comme on vient d'univers très différents, le plus dur, ça a été de composer ensemble, de pouvoir faire passer tout ça. Mais oui, puis ça nous correspond peut-être cet endroit de faire passer du rire, d'être dans une générosité, de pouvoir se marrer nous. En fait, comme on se marre ensemble, on a envie de le transmettre aussi.
Exactement.
Et peut-être que voilà, c'est là que ça transpire. Mmh. Moi, il y a une référence, ça me fait penser quelqu'un que quand j'étais en formation en école de cirque et puis quelqu'un qui m'a que j'aimais bien, c'est Howard Button, un clown. Voilà, pareil, on est sur du comique de situation, on est sur des choses très simples mais qui en fait sont à une portée universelle et puis qui touchent les émotions aussi.
J'ai aussi quelques petites références au cirque traditionnel mais faites de manière comique. J'ai par exemple cette scène où Camille en fait est à vélo et dit à son vélo de jump, de sauter. Et moi, ça m'a rappelé effectivement les chevaux qui faisaient le tour de la piste. Il y a également Camille, et malheureusement, je suis pas sûr avec qui elle est, peut-être avec Cyril ou Valentin.
Avec Valentin.
Avec Valentin, où il y a une sorte de numéro de dressage, comme si c'était un félin. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'artiste du cirque d'aujourd'hui, pardon pour la redondance, vous rendez encore dans les cirques traditionnels? C'est quelque chose auquel vous restez attaché, si vous n'y avez jamais été attaché d'ailleurs?
Moi, pas spécialement. J'ai pas un grand intérêt. Bon, déjà, les animaux en cage, c'est hors de question. Après, ça dépend de l'esprit, des propositions artistiques, mais ça me touche rarement, en fait. Après, il y a certains numéros circassiens qui sont très, très forts. Mais moi, je préfère le contact, l'humanité qui se dégage. Et c'est souvent, je m'y retrouve pas souvent. Moi, c'est une question de choix et de goût personnel, en fait.
Par curiosité, aussi pour me raccrocher d'où le cirque vient. Donc ça m'arrive d'aller encore voir du cirque traditionnel. Après, j'essaye de voir... maintenant, il y a certains cirques traditionnels de plus ou moins de qualité. Donc du coup, j'essaye de sélectionner ce que je vais voir. Donc ça m'est arrivé. Mais non, sinon, moi, j'ai vraiment un attrait. Et c'est là que j'aime aller voir les spectacles. Et tout ça, c'est dans le cirque contemporain. Et puis la danse et puis le théâtre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une qualité... de propositions, d'engagement, qui sont exceptionnelles en France. Alors voilà, des fois c'est difficile quand on est sur les festivals ou quand on est dans des théâtres de pouvoir jouer et aller voir d'autres spectacles, mais dans la vie de tous les jours, le plus possible. Et puis j'ai mes enfants, donc j'essaye de transmettre ça aussi, donc les emmener voir des spectacles. Mais aussi, pourquoi pas du cirque traditionnel, qu'ils aient leur idée et qu'ils puissent aussi avoir cette ouverture-là, quoi. Après, par contre, c'est vrai que les animaux, ça... on essaye d'éviter, mais ça y est, c'est interdit. Donc.
Et ceci dit, moi, j'oublie pas d'où on vient, du cirque traditionnel. C'est-à-dire que hier, moi, j'étais très, très ému d'être au cirque de Riga, qui était construit à l'époque des Tsars, seul cirque en dur de la Baltique, et qui est réhabilité. C'est magnifique, ce projet. C'est juste magnifique. Et j'étais très, très ému à l'idée d'être le premier spectacle, d'inaugurer cette salle. Franchement, je sentais presque les éléphants qui étaient passés par là. Enfin, parce qu'ils ont gardé des touches, des aspects de l'ancien cirque. Il y a encore donc le passé est encore là et on n'oublie pas nos racines. Et ça, bon, ça, je l'oublie pas.
Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous voir en live, de voir votre super spectacle, je les invite vraiment à se rendre sur votre site, labandatirex.fr, sur lequel on peut voir notamment deux films, c'est là-dessus que je vais m'attarder. Le premier, c'est L'épopée T-Rex, réalisé par Pierre Barbier, qui est un projet d'itinérance à vélo en octobre 2021 dans la vallée de la Drôme. Moi, j'y ai vu une formidable aventure de joyeux drilles, si vous me permettez le qualificatif, qui parcourt la vallée de la Drôme sur 5 jours afin d'y réaliser leurs impromptus. On vous voit intervenir et performer auprès de différents publics dans différents endroits, écoles, skateparks, sur le bord de la route. Moi, vous m'avez vraiment donné l'impression de superbes artistes artisans qui proposent un bal populaire circassien ambulant à droite à gauche. Comment est née l'idée de ces impromptus? Que sont ces impromptus? Et comment est née l'idée?
Ah, c'est une bonne question. peut-être à la base, mais peut-être que je me trompe, l'idée est venue du fait que pour certaines demandes, toute l'équipe n'était pas disponible pour jouer le spectacle. Et on s'est dit, bah, peut-être on peut faire des petites formes. C'est peut-être ça l'origine, je ne me rappelle plus très bien.
Une connexion avec la gare à coulisses, une proposition aussi, une envie de... Ah, pour monter un projet
pour l'épopée. Oui. Oui, mais les impromptus à la base, il y a eu d'autres impromptus en amont. Donc, je pense que l'origine des impromptus, donc de petites formes à 4 ou 5 ou 6, pour faire des interventions improvisées sur site, c'est parti de là. Après, le projet d'épopée avait été une demande, donc ce parcours, ce voyage, cette balade en vélo à travers un parcours dans la Drôme, avait été une demande, une commande de la gare coulisses
à Cray,
dans la Drôme. Et on a construit ce projet autour de cette balade avec des interventions qui étaient des impromptus qui étaient calés, mais on a aussi improvisé. Par exemple, sur notre trajet, on voyait qu'il y avait une école qui était en récréation. On s'est dit, on va s'arrêter, on va faire quelque chose. Et on a fait un mini-concert, une mini-intervention qui n'était pas du tout prévue. Et après, on a repris notre route, on a continué jusqu'au point suivant.
D'accord. Les impromptus, de ce que j'ai lu, vous en avez 4 différents types. Les éruptions dans les classes d'école, les échappées de T-Rex, ruées de T-Rex, exploration en lieu non dédié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oh ben là, c'est pour développer un peu nos propositions. C'est vrai qu'on arrive, on ne connaît pas les lieux. Par exemple, on intervient sur des marchés. Mais les marchés, pour faire du vélo, ce n'est pas forcément évident, surtout qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on fait un petit repérage une heure en amont. On voit, tiens, on pourrait se mettre... Voilà, mais ça parle de la même chose, en fait. C'est comment, nous, on peut faire notre proposition artistique à vélo et en musique aussi, en forme déambulatoire, en fait, sur tel lieu et l'adapter à tel lieu. Et on a cette chance de bien se connaître du fait de nos connexions et de nos travaux antérieurs de labo de recherche pour se dire, ah ben là, on pourrait faire ça, ça, ça comme figure. Après, on se déplace là. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
John, vous évoquiez tout à l'heure l'aventure humaine qu'est la bande à T-Rex, pardon. Et moi, c'est ce que j'ai vu pendant le film aussi. Je me suis dit, mais quelle aventure humaine extraordinaire ça a dû être. Et je me suis dit, voilà, de manière plus personnelle, est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes un peu plus marquants ou émouvants durant ces 5 jours que vous voudriez partager avec moi et avec nous, les auditeurs?
Oui, certaines côtes qui étaient très dures à monter à vélo avec tout le matériel, parce qu'on trimballait aussi nos vélos et nos instruments de musique. On avait une batterie qui était sur une petite remorque tirée par un vélo et électrifiée, heureusement avec assistance électrique. Mais il y avait certaines petites journées qui étaient quand même un peu dures. On faisait pas beaucoup, je crois qu'au maximum, on a fait 30 km par jour. Mais c'était quand même très, très éprouvant. Alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme anecdote? Ah, si, j'en ai une, ça me revient. Eh ben, on avait dans notre convoi cycliste, on avait une triplette, donc un vélo à 3 places, et qui n'était occupé que par 2 cyclistes. Et on a croisé une auto-stoppeuse. Donc, je pense que c'était la première vélo-stoppeuse qu'on a prise. Ça, on l'a fait un parcours avec nous sur une dizaine de kilomètres. Et ça, c'était très, très drôle. Première vélo-stoppeuse, voilà.
On la voit d'ailleurs dans le film.
C'est vrai, d'accord.
Oui, elle est présente dans le film. L'épopée T-Rex a été suivie par l'épopée arménienne. Du coup, ça se passe en juin 2022. C'est l'ambassade de France en Arménie qui vous invite. Oui. Pour construire une tournée de 6 jours, jalonnée de rencontres, avec des structures et des artistes arméniens et arméniennes. Avant de partir là-bas, est-ce que vous avez des attentes, voire des ambitions? Et pourquoi acceptez-vous l'invitation?
Des attentes, c'est rencontrer d'autres cultures, c'est la rencontre. D'autres attentes, c'est la rencontre. Partager, nous, ce qu'on sait faire. Partager ce que les autres artistes sur place savent faire aussi. On a eu de très, très beaux échanges musicaux avec un groupe sur place là-bas qui avait été un peu monté en amont déjà, mais on avait envie de ce partage. Ça faisait partie du projet que des musiciens arméniens nous accompagnent aussi sur certains endroits. Donc ça, c'est des rencontres. Et puis, la rencontre des populations. Enfin, franchement, certains villages nous ont remerciés de s'être arrêtés dans leur village, à Tipiak, de mémoire, où personne ne s'arrête jamais. Il y avait encore des séquelles des précédents tremblements de terre, c'est-à-dire qu'il y avait encore des maisons de fortune qui étaient là. Ils sont tous venus voir le spectacle, on a eu des échanges absolument d'une chaleur humaine incroyable, vraiment incroyable. Donc ça, ça marque à vie. Quoi. C'est vraiment le point essentiel, je trouve, de l'être humain, en fait. C'est juste se rencontrer.
Il est dit par un Arménien, par un local dans le film, qu'il n'y a pas de culture de vélo dans le pays. Ou est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés vraiment auxquelles vous ne vous attendiez pas ?
Artistiquement ?
Artistiquement, logistiquement ?
Non, c'était très bien calé. On s'est adapté sur tous les terrains. Des fois, c'était du gravier, ce qui n'était pas évident. Ça nous gêne un peu, forcément. On ne fait pas toutes les figures qu'on voudrait, mais on a pu vraiment s'adapter. Et du coup, de voir... Les Arméniens nous voir évoluer à vélo comme ça, c'était juste, leurs yeux brillaient, c'était magnifique, c'était du jamais vu, et c'était nous qui provoquions ça, c'était juste génial.
Merci beaucoup déjà pour toutes ces réponses. Je vais orienter maintenant la discussion sur le cirque contemporain de manière plus large. Comme beaucoup, je lis le cirque à l'enfance, et c'est du cirque traditionnel dont il s'agit, le clown au nez rouge, les lions rugissants, les trapézistes virevoltants. Mais en novembre dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre à Tallinn pour assister à Epicirque, qui est un showcase de cirque contemporain. Ça a été une magnifique découverte que je souhaite approfondir, d'où ce podcast. Et lorsque j'en parle autour de moi, lorsque je dis que je m'intéresse et que je découvre le cirque contemporain, les gens me demandent naturellement « c'est quoi le cirque contemporain ?» Alors du coup, je vous transfère la question « c'est quoi le cirque contemporain ?»
Question qui tue.
Oh, je vais bien commencer.
Vas-y, avec plaisir.
Moi, pour moi, c'est complètement personnel comme définition, mais le cirque contemporain, je le perçois comme une forme dramaturgique avec une profondeur d'écriture qui n'existe pas dans le cirque traditionnel. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller loin dans ce qu'on veut chercher à montrer, transmettre par rapport au cirque traditionnel qui est beaucoup plus démonstratif. Moi, je trouve qu'on peut aborder des œuvres du répertoire même théâtral classique avec le cirque contemporain. On pourrait faire Hamlet, Or, quand le cirque traditionnel, je vois pas trop comment. Donc, il y a cette profondeur de création artistique qui est, pour moi, le noyau central et avec plein de rayons qui émergent de différentes formes dans le cirque contemporain. Mais pour moi, c'est ça. C'est la profondeur d'écriture qui est possible, qui est à notre portée. Parce que c'est moins démonstratif.
Moi, je dirais... le cirque contemporain, c'est un mélange des arts. C'est... En fait, le mot cirque, c'est compliqué parce que... En fait, dans le cirque contemporain, il y a du cirque, mais il y a aussi des inspirations qui viennent de plusieurs endroits, qui viennent du mouvement, qui viennent de la danse, qui viennent du théâtre. Et ça, en fait, le cirque contemporain est né quand on a appris à faire du cirque différemment, en fait. Et que c'était plus l'endroit de la famille, de la génération en génération, et que ça se passait à un autre endroit, avec aussi un enseignement qui était différent, avec justement des choses qui venaient d'ailleurs. Et c'est ce mélange-là, en fait. Et puis après, moi, ce que j'aime beaucoup dans le cirque contemporain, c'est la possibilité, en fait. Tout est possible. Et en fait, c'est infini. C'est la multi-définition, en fait, la définition du cirque contemporain. Et c'est cet endroit-là qui est hyper intéressant et qui est, du coup, très, très riche et qui permet plein de choses. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup après, ça, c'est à titre personnel, j'aime beaucoup ce rapport du corps, du physique, de la prouesse, mélangé avec la poésie, un certain sens de l'esthétique, avec aussi une dramaturgie, avec... pourquoi pas des messages, pourquoi pas raconter des histoires. Et ce mélange-là, moi, il me touche particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai fait du cirque, c'est parce que j'ai vu des spectacles de cirque qui étaient à cet endroit-là et qui m'ont donné envie de faire ça à mon tour.
Effectivement, et moi, je trouve qu'une des différences, c'est complètement personnel aussi, avec le cirque traditionnel, c'est qu'au cirque traditionnel, on essaie de montrer des performances. Alors que, enfin nous en tout cas dans la bande à T-Rex, dans notre manière de pratiquer le cirque, on a envie que les difficultés techniques ne se voient pas. C'est-à-dire que il se passe quelque chose, puis on se rend compte que mais il a fait ça en vélo, mais on l'a pas vu venir. Voilà, on a dépassé l'aspect technique pour on essaie de garder le contact avec le public, et on focus pas sur la difficulté. On ouvre et on essaie que la difficulté technique artistique ne se voit pas. Moi, je trouve que c'est un aspect du cirque contemporain aussi.
Justement, lié à ça, aux difficultés techniques, artistiques, et aussi par rapport à ce rapport au corps, et aussi pour mêler à la dramaturgie, en reprenant différents éléments de vos réponses. Je lisais en faisant mes recherches sur ce qu'est le cirque contemporain. Par exemple, Tommy Puovara écrit dans son livre sur l'introduction, il écrit qu'au tournant des années 60-70, lorsqu'il y a le cirque nouveau qui se développe, que le cœur, l'essentiel, le noyau du cirque, c'est désormais un processus créatif dans lequel les techniques du cirque sont l'un des instruments d'expression. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi je me suis demandé si ce que vous faites, si le ballet cyclique que vous faites, c'est codifié comme peut l'être la danse ou le théâtre. C'est-à-dire que chaque technique, chaque numéro que vous faites, exprime quelque chose, comme une arabesque peut exprimer quelque chose, comme un aparté est un outil spécifique du théâtre qui exprime quelque chose.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. En fait, nous, on essaie de se raconter des choses. Et après, ça laisse place à l'imaginaire et le public peut se raconter ce qu'il veut, en fait. Mais oui, nous, on se raconte à... Que ça soit un élan, que ça soit une idée, que ça soit une proposition technique, mais on se raccroche toujours à raconter quelque chose, ouais, bien sûr.
Oui, on a toujours un focus sur les intentions. C'est-à-dire, quelle est l'intention qui fait que j'ai ce mouvement ? Pour qu'il y ait quand même une lecture pour le public, mais on essaye de laisser cette lecture ouverte à 360 degrés pour que chacun que son imaginaire, pour que les imaginaires de chacun fonctionnent en fait. On n'impose pas, ou rarement on impose, on ne veut pas dire « Ah tiens, c'est ça que je voulais dire », mais il faut quand même avoir une intention, on ne peut pas entrer en piste à vide. Il faut un élan de départ, donc on travaille quand même sur ces intentions qui sont quand même les moteurs qui font que tout s'articule, parce qu'une intention entraîne une autre intention qui entraîne une autre intention, et au bout du compte on n'a pas la même lecture si on change les données en cours de route. Donc quand on fait des petits points, des petits débriefings ensemble après un spectacle, on refocus là-dessus aussi pour se dire « Ah bah oui, là, il manquait un peu de ci, un peu de ça. » Donc, on corrige, on réadapte. D'un jour à l'autre, on est humain, on n'a pas le même état émotionnel, on n'est pas dans le même état intérieur. Donc, il faut s'en tenir compte et se dire « Ah là, ce serait plutôt ça. » Donc, il y a toujours cette petite note en tête, ce petit post-it qui est là dans ce qu'on doit faire en piste.
En parlant justement du coup d'intention de dramaturgie d'histoire, est-ce que lorsque vous en étiez à l'élaboration de votre spectacle, vous avez fait appel à un ou une metteur en scène ?
On a travaillé avec un regard extérieur. Souvent dans le cirque, on fait ça. Alors, les mots, c'est compliqué. En fait, on pourrait dire regard extérieur, metteur en scène, metteuse en piste, quoi. Mais en fait, on a besoin d'éléments d'extérieur, de points de fuite, parce qu'il faut un recul par rapport à ce qui se passe au plateau. Mais souvent, ça reste des créations collectives. C'est-à-dire que de toute façon, dans le cirque, on est obligé de composer avec les matières, les corps, les techniques de chaque personne. Donc, de toute façon, ça vient beaucoup de propositions de ce qui se passe au plateau. De toute façon, c'est important. Mais bien sûr qu'il y a aussi besoin des fois de guides, de vision aussi de l'extérieur pour pouvoir orienter. Et puis voilà, donc nous on a travaillé avec Julien Monin, et c'est précieux de pouvoir avoir quelqu'un qui est à l'extérieur du plateau et qui après on parle de création collective.
Ah, complètement, l'écriture est complètement collective, et Julien au tout début faisait partie de la bande à T-Rex, et puis pour des raisons professionnelles a dû s'éclipser. Et quand on a cherché une idée pour quelqu'un, pour un regard extérieur, on a tout de suite pensé à lui parce qu'il nous connaissait déjà. Il connaissait la pratique du vélo artistique. Il avait aussi une expérience de spectacle. Et on s'est dit, lui, il pourra nous guider, et chose qu'il a faite très, très bien. Mais l'écriture est vraiment collective. Et Julien a réarrangé, remis en place. Mais des fois, c'est vrai que c'était pas forcément facile pour lui. Il proposait des changements d'écriture, et nous, on n'était pas forcément, on n'allait pas forcément dans son sens, quoi. C'est vrai qu'on tenait à notre proposition d'écriture.
D'accord. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Cirque Contemporain. Je vous recommande si vous l'avez pas lu, de Rosita Boisseau et Christophe Reynaud-Lelage. Il est écrit ceci, en retraçant l'histoire du cirque, que c'est un art qui a une fibre sociale qui ne lâche pas sur la question de l'art à la portée de tous. Quand on vous étudie un minimum, quand on voit votre spectacle, quand on voit les films, c'est évident pour la bande à T-Rex. Ma question, ça s'inscrit dans un cadre plus large qu'est celle du cirque contemporain, sa situation en France ou même en Europe. Puisque le cirque s'est institutionnalisé avec les écoles, les différents pôles, et que le mot contemporain est assez lui-même chargé, à tort ou à travers, d'un certain élitisme en ce qui concerne les arts. Diriez-vous que le cirque contemporain se soucie-t-il toujours d'être à la portée de tous ?
Waouh, c'est une bonne question. Je crois que, en fait, nous, avec la bande T-Rex, on y a répondu en n'y répondant pas. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question à cet endroit-là, nous. On a fait ce qu'on sentait. Mais cette envie d'être accessible, de pouvoir être à des endroits, peut-être que où le cirque contemporain n'y est pas ou n'y est plus, c'est trop vaste, en fait. Je pense que, moi, en tout cas, voilà, je ne me pose pas toutes ces questions quand je fais mon métier. Je fais, je vais où j'ai envie, j'écoute ce qui me porte, mes sensations, voilà. Et j'aime aussi me retrouver dans des esthétiques et dans des endroits très différents. J'avais envie de revenir là sur la place de la bande à T-Rex par rapport, depuis tout à l'heure on parle du cirque contemporain. La bande à T-Rex est quand même un endroit particulier, qui est aussi le fait qu'on est un groupe de personnes qui venons d'univers différents, on a dû composer ensemble et tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que le spectacle plaît à une certaine ouverture à différents publics, à différentes générations. Mais c'est vrai qu'on est quand même à un endroit particulier parce que, donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, le mot cirque contemporain, il est quand même compliqué. Moi, j'ai l'impression de faire du cirque. Il y a une forme quand même démonstrative, mais pas dans le sens péjoratif, qu'on assume, qu'on défend. Mais à l'intérieur de ça, il y a des moments. Mais c'est bizarre de dire ça en m'écoutant, je trouve ça bizarre. Mais à l'intérieur de ça, il y a des moments contemporains, il y a des relations contemporaines, il y a des messages contemporains. Même si j'aimerais bien utiliser un autre mot. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la bande T-Rex, c'est qu'on est à un endroit singulier qui nous correspond. Mais c'est compliqué on pourrait parler de nouveau cirque, on pourrait parler de... On est à un autre endroit, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec la bande T-Rex.
Mais c'est vrai que le spectacle de la bande à T-Rex représente vraiment les émanations de nos personnalités et de nos parcours professionnels. John travaillait plus en salle de spectacle, par exemple, en intérieur. Moi, je viens quand j'ai commencé mes premiers spectacles il y a maintenant 34 ans, j'ai commencé par la rue. Donc, spectacle en rue, donc complètement un autre univers. Et pour d'autres, c'est encore d'autres configurations. Et du coup, on retrouve un peu tous ces esprits-là dans le spectacle. Et des formes très, très populaires et des propositions très, très populaires. Et aussi des formes beaucoup plus esthétiques apportées par d'autres personnalités. Voilà, c'est tout ça, effectivement.
Ça se mélange.
C'est un mix de toutes nos personnalités, de tous nos parcours professionnels.
Parce que le cirque, qu'il soit contemporain, traditionnel, nouveau, est un art et il a toujours indiqué quelque chose de l'époque, de la société dans laquelle il a évolué, que ce soit au Moyen-Âge, au 19e siècle, dans les années 70. Qu'est-ce qu'il indique de la société aujourd'hui, le cirque contemporain ? Qu'est-ce qu'il peut indiquer ? Qu'est-ce qu'il laisse à penser de la société ?
Cette énergie, cette activité, ce fait qu'on fait aujourd'hui plein de choses, que ça part dans beaucoup de directions. Et puis moi, il y a un esprit d'envie de liberté, d'expression, je trouve, qui représente bien la société d'aujourd'hui, quoi.
C'est vrai qu'on peut avoir une lecture du spectacle de la bande à T-Rex à travers le prisme, par exemple, des rapports hommes-femmes, hommes-hommes, femmes-femmes. On peut avoir une lecture à travers ce prisme-là et voilà. Notamment quelque chose de complètement actuel.
L'évolution du cirque dans l'histoire, elle a eu beaucoup à voir avec les évolutions technologiques. Je pense notamment avec l'invention du train qui a permis aux États-Unis sur des vastes territoires aux troupes de se déplacer, mais également la révolution industrielle qui a aussi permis l'essence et la naissance de cirques fixes dans les villes ou dans leurs périphéries. L'évolution du cirque, elle a aussi à voir avec l'évolution des autres arts, à l'arrivée du cinéma qui devient l'art le plus populaire. Beaucoup de cirques sont alors désertés. Mais paradoxalement, on retrouve des artistes de music-hall sur les grands écrans. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, le cirque contemporain emprunte beaucoup à la danse et au théâtre. Il s'en nourrit énormément. Aujourd'hui, où tout se numérise, et au moment où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans les arts, on se situe où en tant que troupe, en tant qu'artiste individuel de cirque? Comment on appréhende tout ça aujourd'hui?
On se situe à l'endroit du spectacle vivant. Voilà, moi j'aime bien ça, quoi.
Une IA pourra jamais remplacer un artiste vivant devant un public vivant.
Et puis je suis tellement content quand je joue devant un public où je sais que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou ou qu'ils ont leurs références, ou en tout cas leurs habitudes, c'est plutôt le soir d'être devant la télé, de pouvoir être, de voilà. Et c'est ouais, le spectacle vivant. Moi, vraiment, c'est de faire ça. Et on voit en fait que c'est un endroit très important. Et je pense qu'il, du coup, c'est pour ça qu'on en revient. C'est pour ça qu'on n'est pas remplacé que par les écrans et qu'on, parce qu'en fait, il y a un endroit qui est vital en fait, je crois, pour l'homme et la femme. C'est, on a besoin de ça en fait. On a besoin de ça.
Dans un futur proche ou même lointain, pour la bande à T-Rex, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, dans une optique artistique, c'est pas l'ordre du jour.
Non. Même moi qui suis très geek, vraiment très geek, je l'envisage absolument pas.
C'est dans votre logique, vous parlez effectivement de ce besoin de spectacle vivant, de connexion, d'éviter les écrans. C'est aussi dans cette logique que la bande à T-Rex n'a pas de réseaux sociaux officiels. Quand on va sur votre site, labandeatirex.fr, on ne trouve pas de lien vers une page Facebook ou Instagram, par exemple.
Non, je pense que c'est pour une raison différente. Peut-être que je me trompe, mais c'est très chronophage d'entretenir, d'apporter du contenu sur les réseaux sociaux. Et on a déjà beaucoup de boulot, comme nous faisons tout nous-mêmes au sein de la bande à T-Rex. Donc on se contente d'un site internet qui nous sert de vitrine avec les magnifiques films de Pierre. Et on n'a pas eu envie et pas d'énergie pour apporter du contenu sur Instagram ou autres réseaux sociaux. Voilà. Et puis, c'est vrai que si on peut, on est un petit peu anti-GAFAM aussi. Donc si on peut éviter, c'est pas mal. Voilà. On est un peu à contre-pied, mais c'est nous.
Revenons sur votre présence à Riga afin de terminer cet entretien et merci beaucoup encore une fois de votre temps. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez donné une masterclass de cyclisme acrobatique à votre arrivée dans la capitale lettonne.
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Waouh, très très bien. Il y avait 24 participants, participantes. Il y avait beaucoup de participantes et on était très très contents aussi que des filles, des femmes s'emparent aussi de cette opportunité de venir faire du vélo acrobatique avec nous. C'était de très très chouettes rencontres, vraiment de très très chouettes rencontres avec soit des anciennes gymnastes ou voire circassiennes aussi. En 2 heures, on a pu aborder quelques figures techniques quand même qu'on n'aurait pas forcément imaginé au début du workshop, au début de l'atelier. Et c'était une très très belle initiative, je trouve, de l'équipe du Cirque de Riga d'avoir proposé ça et en partenariat avec l'école de cirque. C'était très très chouette comme échange, vraiment. On en veut d'autres.
S'il y a de jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui, comme vous, souhaitent devenir artistes de cirque, comment faut faire ?
Allez-y.
Parce que vous avez évoqué la rue, donc effectivement c'est une option. Moi je trouve qu'elle est effectivement très belle. On prend un morceau de rue et on s'installe. Et j'évoquais aussi les différentes institutions, les différentes écoles. Vous, personnellement, vous y êtes passé par des écoles de cirque ?
Oui, moi, je suis passé par des écoles de cirque. Mais j'invite les gens à se renseigner sur... Ouais, c'est vrai qu'en France, mais en Europe aussi, on a la chance d'avoir des écoles de cirque qui forment très, très, très bien. On a la chance d'avoir des écoles préparatrices aux grandes écoles. Donc, c'est des formations sur 2 ans qui sont autant un travail technique et artistique pour préparer les concours aux écoles supérieures. Donc ce parcours-là, moi personnellement, je suis passé par l'école de cirque de Lyon et puis après l'école de cirque de Toulouse, le Lido. Mais après, il y a pas de chemin, quoi. Je veux dire, tout est possible en fait. Voilà, tous les parcours. Rester curieux, ouvert. Puis ouais, il faut croire à ses envies, sa passion, quoi. Il faut se laisser porter, quoi.
Et alors moi, j'ai un autre parcours puisque, comme vous l'avez dit en début d'interview, je viens du monde de la compétition en BMX. Et après, je me suis recyclé en faisant des spectacles. Mais alors, mes premiers spectacles amateurs étaient muets, parce que je suis quelqu'un de très timide. J'étais incapable de parler en scène. Et après, j'ai fait des rencontres, une prof de théâtre qui m'a coaché. Donc, j'ai fait 5 ans de théâtre et après des stages de clown. Voilà. J'ai vite compris que, en tout cas pour moi, que la technique n'était pas forcément quelque chose qui était à privilégier, non, en tout cas dans ce que je voyais pour moi, parce que le public se fatigue vite de jongler à 11 balles. J'ai compris que c'était le jeu d'acteur qui était essentiel pour moi. Et donc, je me suis formé et fait former là-dessus a posteriori, mais j'ai commencé avec des spectacles avec une bande son et j'étais un peu Charlie Chaplin. Voilà. Mais j'ai pas fait d'école de cirque, du monde de la compétition.
Vous avez joué hier, vous rejouez ce soir et ce week-end au magnifique cirque de Riga. Premièrement, je vous dis merde. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient cette année pour la bande à T-Rex?
Eh ben, des dates, d'autres dates, encore des voyages, une résidence aussi, ça c'est bien, ça, on a réussi à caler ça, donc c'est la prochaine fois qu'on se retrouve, là, on rentre chez nous, on a une petite pause, et après la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour se retrouver sur une semaine de retravail autour du spectacle, autour de la musique, autour de la technique aussi de cirque, et ça c'est important aussi pour nous d'arriver à faire ça. Et de pouvoir honorer les dates et de pouvoir être ensemble sur les spectacles, mais aussi de se retrouver dans d'autres moments. On a aussi l'occasion de... On essaye de se retrouver aussi dans des endroits plus... on appelle ça des séminaires, mais pour pouvoir parler du fond de la compagnie, de l'organisation, d'avoir des temps aussi d'échange pour pouvoir s'exprimer. Des fois en tournée, on n'a pas le temps. Et ça, en tant que groupe, c'est important. Et on essaye de prendre le temps de faire ça. Et on voit que c'est un intérêt en termes de communication, en termes d'énergie dans le groupe, c'est important. Donc voilà, donc la prochaine étape, c'est une résidence. Et puis après, pas mal de dates, comme ça, de tête, Cournon d'Auvergne, Boulogne-sur-Mer. Je crois qu'on repart en Allemagne.
Oui, on part en Côte d'Or, Haute-Savoie, Allemagne.
Voilà, donc pas mal chargé jusqu'à octobre, on va dire.
D'accord.
Et puis, voilà.
Merci beaucoup, la bande à T-Rex.
Merci à vous.
Merci à vous.
Pour votre temps et encore félicitations pour votre super spectacle, pour votre virevoltant ballet cyclique et musical qui est très drôle et que j'invite vraiment tous les auditeurs à s'y rendre. Pour en savoir davantage sur les prochaines représentations et impromptus de la bande à T-Rex, je vous invite à vous rendre sur leur site internet labandeatirex.fr. Merci d'avoir écouté le podcast du Cirque de Réga, l'occasion de sa grande réouverture et de la saison française qui l'inaugure. À bientôt.
Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.